notamment sur cette première partie sur le péché. J'aborde du coup le péché qui nous concerne nous. On abordera ensuite du coup le diable. Et ensuite, du coup, les influences du monde. Donc, trois parties du péché différentes. Du coup, cette première partie qui concerne avant tout nous-mêmes et le péché. Alors, pour vous dire les choses, dans cette série-là, je ne vais pas aborder tous les péchés du monde, sinon on ne va pas s'en sortir, et c'est pas le but non plus pour nous le dimanche matin, mais aborder des péchés essentiels, en tout cas, et qui peuvent tous nous toucher. Et ce matin, je vous propose, du coup, on a parlé de l'endurcissement du cœur la semaine dernière. Ce matin, je vous propose de parler d'un sujet. La médisance. La médisance, c'est un sujet dont la Bible parle beaucoup et qui touche tout le monde. J'ai envie de dire presque tout le monde, mais en fait, il faudrait que je dise même tout le monde, c'est ce que la Bible nous dit. Mais avant de commencer, je voudrais vous poser la question, parce que je sais que vous étiez des enfants ce matin, donc pour vous, qu'est-ce que c'est? Comment on définit la médisance? C'est quoi la médisance? Que quelqu'un peut me donner une définition simple? Une critique? Alors une critique, ça peut être une mauvaise critique. Ouais, là c'est déjà différent. Parce qu'une critique, ça peut être positif. Hein. Un mauvais jugement sur la personne que l'on voit, d'accord? Ce jugement, du coup, un a priori, ouais, ça en fait partie, effectivement. C'est ça. C'est la définition simple, c'est ce que tu dis, Liliane, c'est dire du mal derrière le dos de quelqu'un. C'est pas lui dire en face, c'est dire du mal de quelqu'un derrière son dos. Et ça peut être du coup un jugement, une mauvaise critique, ça peut être aussi, on le verra tout à l'heure, une vérité vraie que l'on dit. La question c'est pas le fond, quelque part, c'est on le dit derrière le dos de quelqu'un. C'est l'intention, à qui on le dit, comment on le dit. Et la Bible va en parler, et on pourrait se dire ce matin, et vous pourrez me dire, bon moi ça va, je ne médis pas. Et pourtant il y a ce texte dans la Bible. Le texte qui se trouve dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est un de mes livres préférés dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est un livre de sagesse. Et ici, on ne sait pas qui c'est l'auteur. On pense que c'est Salomon, mais on n'est pas certain. Qui va écrire des paroles pleines de sagesse. Et il va dire ceci, tu peux mettre le verset. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 21. Ne prête pas attention à tout ce qu'on dit. Et si ton serviteur te dénigre, n'écoute pas, car tu sais bien qu'à plusieurs reprises, il t'est arrivé à toi aussi de dénigrer les autres. La Bible, elle n'encourage pas à la médisance, hein, mes frères et sœurs. On va le voir tout à l'heure. Mais je trouve ce verset fort, puisque il dit quelque part, ok, si tu entends parler du mal de toi, rappelle-toi que toi aussi tu fais la même chose. C'est un peu cette parabole de cette parole de Jésus, avant de regarder à la poutre qui est dans l'œil de ton voisin, toi t'es dans la paille plutôt, toi t'as une poutre dans ton œil. Et ça permet un peu de faire descendre la pression. Et nous allons du coup voir ce matin ce que la Bible nous parle, et de voir aussi, et c'est le titre de mon message, la médisance, le poison de la langue. Tu peux mettre la diapo. Et c'est un poison dans nos relations, et le poison de la langue, c'est un des premiers poisons. Il y a aussi le mensonge et d'autres choses, mais la médisance, c'est le premier des péchés. À travers la médisance que le diable va entraîner Adam et Ève dans leur chute, et cette médisance, du coup, elle est terrible, puisqu'elle fausse les relations. La relation à Dieu, mais aussi nos relations entre nous, êtres humains, et y compris dans l'Église. Je vous ai mis le passage dans Ecclésiaste. Le roi Salomon ne parle pas à des païens, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais à des personnes qui connaissent Dieu et qui pourtant vont avoir tendance à parler. Une petite histoire, un jour, une histoire vraie. Un jour à Londres, on a le grand prédicateur et pasteur Charles Spurgeon. Je ne sais pas si vous connaissez Charles Spurgeon, c'est un grand prédicateur, on l'appelle le prince des prédicateurs puisqu'il savait bien parler, bien prêcher la parole. Il va recevoir la visite d'un autre pasteur en Angleterre et qui va rentrer dans son bureau, l'air gêné, et il va lui dire « Frère Spurgeon, je viens te parler d'une rumeur. Je préfère que tu l'entendes de ma bouche puisque ça fait quelques années que je l'entends et ça me dérange, donc je préfère te le dire. » Et Charles dit, une rumeur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit sur moi? Et il dit, oui, on dit que tu as acheté une voiture luxueuse avec l'argent des offrandes de ton église. Et Spurgeon reste silencieux un moment, il sourit. Il dit, ah bon? Et ceux qui ont dit cela savent-ils que cette voiture n'est même pas à moi? C'est mon éditeur qui me la prête pour aller prêcher dans les campagnes. Et après un court silence, il va ajouter, vous voyez, la médisance, ce n'est pas toujours un mensonge. C'est une parole incomplète, racontée au mauvais endroit, avec la mauvaise intention, et surtout pour nuire. Et c'est intéressant puisqu'on peut voir que même les grands hommes, autant qu'ils soient, tous, quelque part, ont été atteints par la médisance. C'est un poison, quelque part, qui est toujours là, qui a toujours existé, même à travers l'histoire. On pourrait prendre l'exemple de la Révolution française. Y a des exemples qui ont amené à la Révolution. Alors, il y a eu la misère sociale, mais il y a eu aussi beaucoup de paroles de médisance qui ont entraîné la Révolution, notamment cette phrase dont on prête du coup à Marie-Antoinette, comme quoi elle aurait dit que voilà, moi je mange de la brioche, donner au peuple autre chose, qu'on leur donne de la brioche tant qu'ils ont faim. Et qui aura déclenché du coup, c'est ce qu'on dit, la Révolution. Mais bref, bon, c'est pas le sujet de ce matin. En tout cas, pour dire quelque part que les mots rapportés peuvent salir une réputation, diviser des frères et sœurs, déshonorer le témoignage du Christ, briser aussi une famille. Et ce matin, j'avais plusieurs exemples. Il y a plusieurs exemples de médisance, malheureusement. Et je propose du coup de prendre un texte dans Nombre 12. Et c'est une histoire du coup qui se trouve dans l'Ancien Testament, mais c'est l'histoire d'une famille. Une famille qui va vivre un moment de médisance assez fort, qui va entraîner des tensions, et on va voir comment Dieu réagit par rapport à cela. Je vous invite à prendre Nombre 12, on ne va pas lire le chapitre entier puisqu'il est assez long, je vais le raconter, et je vais lire quelques textes, je vais faire une lecture ciblée ce matin, je lirai quelques textes du coup de ce chapitre, mais je vous propose, et je vous encourage même, à avoir vos bibles ouvertes, vous pourrez le lire, donc et avoir tous les détails quelque part que je ne vais pas forcément citer ce matin. Nombre 12, donc on est dans le Nouveau Testament, dans les premiers livres de la Bible. On est à la période du coup du peuple qui est dans le désert. Moïse conduit son peuple, c'est lui qui a été choisi par Dieu pour conduire son peuple dans le désert. Il vient de choisir 70 anciens pour l'aider. C'est le contexte juste avant, et tout semble bien d'aller. La machine tourne, tout tourne bien. Mais soudain, un problème va surgir, et ce problème, ce n'est pas avec les ennemis du dehors. Ce n'est pas des peuples extérieurs qui vont entraîner des problèmes au peuple d'Israël, mais c'est dans sa propre famille. Il va y avoir une tension forte, qu'on va raconter même dans un chapitre entier, au chapitre 12. Ce qui se passe, c'est que Myriam, la sœur aînée de Moïse et Aaron, Aaron c'est le frère de Moïse, elle va commencer à parler de Moïse, et elle va entraîner son frère Aaron dans la médisance. Et les deux frangins et frangines, vont parler de leur frère en mal. La médisance va commencer comme cela, et par voix basse, c'est pas une révolte ouverte, ils vont pas parler de cela à tout le peuple en disant « Ah, regardez Moïse ce qu'il fait ». C'est entre eux, entre les deux frangins, et on pourrait se dire « C'est une histoire de famille, ils sont entre frères et sœurs, quelque part, ça regarde qui ?» Juste quelques paroles échangées à voix basse, sous peut-être même une tente. Et la raison principale de leurs paroles mauvaises, c'est qu'ils n'aiment pas la femme que Moïse vient de choisir. Moïse vient de choisir une Éthiopienne. Et ils n'aiment pas du coup cette femme. Bon voilà, ces relations sociales là. Et du coup ça parle. Myriam, la sœur, c'est la belle-sœur là pour le coup, elle n'aime pas et elle commence à parler. Et elle entraîne Aaron, son frère aussi dans la médisance, mais c'est elle qui est à l'origine ici de cette mauvaise parole. Il va être dit ceci au verset 2. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? C'est-à-dire que derrière le fait que la femme de Moïse les dérange, ils vont passer sur un autre terrain. Ils vont remettre en question l'autorité de Moïse, du coup, parmi le peuple. Et du coup, son rôle, en disant finalement quelque part, Dieu peut aussi parler à travers nous. Et il y a cette phrase immédiatement qui vient après le verset 2, et l'Éternel l'entendit. Dieu a entendu, personne d'autre peut-être, même Moïse ne l'a pas entendu, mais Dieu lui l'a entendu. Et c'est là que commence notre histoire, et c'est mon premier point. Premier point, la médisance commence dans le cœur. C'est les versets 1 à 2. Elle commence avec des ressentiments mauvais, des émotions mauvaises. Ici, c'est la jalousie. Il y a une jalousie, peut-être envers la femme, alors il n'y a pas le détail, envers la femme peut-être de Moïse, l'Éthiopienne. Et puis il y a une jalousie qui commence à grandir, mais ça peut être d'autres émotions que la jalousie. Des ressentiments, en tout cas, qui ne sont pas bons envers notre prochain et qui entraînent qu'on parle. On ne parle jamais de quelqu'un derrière le dos si on l'aime bien. Ou si on a des sentiments apaisés envers cette personne. On parle parce qu'en général, on n'est pas apaisé. On a soit de l'aigreur, soit de la colère, soit des blessures, peu importe. En tout cas, un péché qui nous entraîne dans un autre péché qui est la médisance. Myriam et Aaron ne disent rien directement d'insultant. Ils n'insultent pas Moïse. Ils n'accusent pas Moïse de faire de faute morale. Ils font juste une remarque, et une remarque qui est juste. Il va être dit ceci, il a épousé une femme étrangère, une éthiopienne. Il n'y a rien de faux dans cette remarque, mais derrière cette remarque, ils insinuent, et puis après tout, qui est-il pour se croire le seul à parler au nom de Dieu ? C'est ce qu'ils vont dire juste après. Ce n'est pas une explosion qu'ils font, ni un scandale, c'est une graine subtile qui va être semée, un poison subtil, celle de la comparaison, qui peut être faite de jalousie, de blessure, d'un désir de reconnaissance. Et la médisance, elle naît toujours du coup de ce cœur qui regarde à l'autre au lieu de regarder à Dieu. Alors je vous pose deux questions ce matin. Pourquoi parlons-nous souvent des autres quand ils ne sont pas là ? C'est plus facile, exact. Ouais, c'est ça. On se connaît bien, ça se voit qu'on a l'habitude de médire, vous avez des très bonnes réponses. Mais on est tous dans le même bateau, hein, mes frères et sœurs. On maudit chacun de notre manière, du coup ce message ce matin il nous concerne tous. Mais c'est tout à fait vrai. Quand la personne elle est pas en face, on n'a aucune réponse. Et en plus, du coup ce qu'on dit, on pense qu'on a raison. Puisqu'en face il n'y a aucune confrontation. Parfois on a peur de blesser la personne. Alors je pense qu'on peut... C'est ça. Mais je pense qu'on se cache derrière cela. Parce que du coup, on s'aime quand même mal envers cette personne, et quelque part, on fait pire que la blesser, en parlant mal du coup d'elle. Oui.
Et la médisance, ça peut être aussi une constatation du cas.
Tout à fait. Mais comme cette histoire. J'ai pris une histoire d'ailleurs très particulière, parce que j'ai pris une autre histoire où c'est inventé. Mais là, ce cas-là, c'est pas vrai. Dans ce cas-là, Myriam, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait une constatation. Il s'est marié avec une Éthiopienne, est-ce que c'est vrai ? Bah oui, c'est vrai. Mais sa faute à elle, c'est qu'elle n'en parle pas à Moïse. Elle parle derrière le dos de Moïse à son frère et elle retourne même le cœur de son frère, Aaron. Du coup, dans la responsabilité de guidance du peuple, il y a Aaron et Moïse, Aaron commence à rentrer dans ce péché de la médisance. En plus, envers son propre frère quand même. Les trois sont frères et sœurs. Et on pourrait se dire, Dieu pourrait dire, allez, c'est des histoires de famille, je les laisse. Pas du tout. Verset 2, Dieu l'entendit. Dieu va réagir parce qu'il considère que là, il y a une faute. Envers Moïse, pas seulement parce qu'il guide le peuple, hein, parce qu'on verra d'autres histoires où il n'y a pas de leadership spirituel, mais parce que la médisance, elle brise des relations, encore plus dans la famille. Et là, effectivement, c'est des constatations. Et la médisance, ça peut être des choses tout à fait vraies. Mais la médisance n'est pas cela. La médisance, c'est ce que l'on dit derrière le dos de quelqu'un. Quand on dit ce que je dis, quelque part, quel fruit ça a ? Quelles conséquences ça a sur la personne ? Est-ce que ça change le regard que la personne peut avoir sur la personne dont je parle ou pas ? Et on peut se cacher des fois derrière le fait que c'est des constatations, c'est vrai, ça reste de la médisance. Vous avez raison, hein ? Du coup, pourquoi on ne parle pas derrière le dos des autres ? On parle souvent derrière le dos des autres, c'est le propre de la médisance, mais parce que du coup, on n'a pas la personne en face qui peut nous répondre. Et j'avais ma deuxième question, mais voilà, on vient d'en parler. Est-ce que c'est encore de la médisance si ce qu'on dit est vrai ? Oui. La question de la médisance, c'est pas dire de la fausseté, ça c'est le mensonge. La médisance, c'est que ça peut être vrai ou faux. Mais c'est comment on le dit ? Et pourquoi on le dit ? Alors dans le cœur du celui qui médit, il peut penser qu'il aime, mais il aime pas. C'est-à-dire que celui qui médit, c'est comme celui qui dit je mens pour protéger ma famille. Non, quand tu mens, tu pèches, et quand tu pèches, tu blesses ton prochain. Tu blesses Dieu, c'est avant tout le premier qui est blessé, le Seigneur, mais c'est aussi ton prochain, sur qui tu sèmes ici la mort. Donc la médisance, il n'y a aucun cas de médisance qui est positif, en tout cas dans la Bible, il n'y en a aucun, et Dieu condamne fermement la médisance. Jacques va en parler dans son épître. Il va dire que cette langue et le mensonge, mais notamment la médisance, est un poison, est une flamme qui brûle tout ce qu'elle passe. Dans le fruit de l'esprit, tous les péchés ne sont pas présents en opposition, mais la médisance, elle est en opposition à la vérité et à la franchise. Puisque c'est pas que la vérité c'est en contradiction avec le mensonge, mais c'est la franchise. La franchise, du coup, est en contradiction ici avec la médisance. Franchise et bienveillance. Parce que dans la médisance, il n'y a rien de bienveillant, même si on pense qu'on l'est. Mais du coup, dans la médisance, finalement, on est dans d'autres choses. Quelque chose ici de malsain qui va abîmer quelque part l'image de notre prochain. La médisance, elle révèle souvent un cœur qui ne supporte pas la grâce donnée à l'autre. L'autre a peut-être quelque chose que l'on n'a pas, quelque chose que j'ai pas, quelque chose que je ne suis pas peut-être. Peu importe. Mais quand on est rempli de l'esprit, on se réjouit de ce que Dieu fait chez les autres. Quand on est rempli de la chair, on critique, on compare, on dénigre. Là, c'est Jacques qui parle. Et à nous, du coup, mes frères et sœurs, dans ce péché qui nous touche tous, de pouvoir ici faire attention à nos paroles. La médisance naît là où la grâce n'a pas encore transformé le cœur. C'est Spurgeon qui va citer cette phrase, je trouve qu'elle est forte. La médisance, c'est celui qui n'a pas encore saisi complètement la grâce de Dieu. Il va loin, hein, parce qu'il va dire, dans le cœur de Jésus, il n'y a aucune médisance. Il y a des paroles franches, de la bienveillance, de l'amour, mais aucune parole derrière le dos. Je n'ai pas besoin quelque part de rabaisser les autres ou de dire du mal derrière les autres, même si je pense dire du bien, comme Myriam dans cette histoire, parce que je sais quelque part que ma relation, elle est entre moi et Dieu, et que Dieu m'aime, que Dieu ne fait pas comme cela avec moi et qu'il m'appelle à bénir les autres. L'exemple de Jésus. Jésus, il n'a jamais cherché à se justifier devant ceux qui parlaient mal de lui. Lui aussi, il va subir la médisance, notre Seigneur Jésus sur terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser Dieu le défendre. Il va dire ceci, et c'est Pierre qui va dire, « Quand il souffrait, il ne faisait point de menaces. Quand on l'insultait, il s'en remettait à celui qui juge, justement. » Et on peut voir que Jésus, les pharisiens vont être toujours dans la médisance envers lui. Ils vont inventer des propos. Et Jésus ne va pas être dans la guerre. Il va laisser. Et Jésus est notre exemple, et c'est l'exemple de celui qui ici parle librement, du coup, de ce qu'il vit, sans laisser la médisance l'atteindre. Pendant que Myriam et Aaron parlent à voix basse, dans cette histoire, persuadés que personne ne les entend, quelqu'un ici écoute. Et ce quelqu'un, c'est le Seigneur, qu'ils ont oublié d'inviter dans leur conversation, et c'est là notre deuxième point. Dieu entend ce qui se dit dans le secret. Alors que Myriam et Aaron pensent avoir seulement échangé quelques mots sans conséquence entre eux, le texte dit ceci. Tout à coup, le Seigneur dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Venez tous les trois dans ma tente de la rencontre. » Dieu les convoque immédiatement. Et ce tout à coup est fort. Le terme hébreu ici, c'est « Dieu n'attend pas. » Il intervient tout de suite. Ce qui s'est dit dans le secret va maintenant être exposé devant la présence de Dieu, et on le verra même plus tard, à la fin du texte, devant tout le peuple. Tout le peuple va savoir ce qui s'est dit dans le secret. Et bien souvent, d'ailleurs c'est un des principes bibliques, ce qui se dit dans le secret, à un moment, tôt ou tard, la vérité explose. Et la personne du coup qui médite, elle se retrouve bien embêtée avec les paroles qu'elle a pu prononcer envers un tel ou un tel. Versets 6 à 8. On va voir que Dieu descend dans une colonne de nuée, il va appeler Myriam et Aaron à s'avancer, et il va leur dire ceci, verset 6. Le Seigneur leur dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand il y a un prophète parmi vous, moi le Seigneur, je me fais connaître à lui en vision et je lui parle en rêve. Avec mon serviteur Moïse, c'est différent. Lui, il s'occupe fidèlement de tout mon peuple. Je lui parle directement et non de façon cachée. Je me montre à lui, et il voit quelque chose de moi, le Seigneur. Alors comment osez-vous critiquer mon serviteur Moïse? Parfois on pense qu'une remarque, une critique envers un frère, une sœur, ou quelqu'un de notre famille, une discussion après le culte, quelque part, ou peu importe le contexte, ce n'est rien. Mes frères et sœurs, je voudrais nous rappeler, et je me mets dedans, Dieu nous entend. Dans notre secret, il y a celui avec qui on va parler, qui peut être complice, hein, parce que dans la médisance, il y a les deux cas. Alors, je ne pensais pas l'aborder ce matin, parce que ça serait trop long. Il y a celui qui parle, mais celui qui écoute. Celui qui écoute se rend complice d'un péché. Et ici, il s'agit de nous de fermer, de couper court à toute médisance, en sachant que ici, comme dans ce texte, où ils parlent tous les deux dans leur tente, Dieu entend et il réagit. Ils ont la grâce, Myriam et Aaron, que le Seigneur intervient tout de suite, qu'il n'y ait pas un jugement qui est posé. Et pour nous, à la fin, quand Dieu nous demandera des comptes, qu'en est-il ? Qu'est-ce qu'il en sera ? Est-ce que sur le rapport à notre prochain, quelque part, nous aurons été dans la bienveillance, dans l'amour, ou dans la médisance, à parler dans le dos des autres ? Une question. Si je parle du comportement de quelqu'un, ou d'autre chose, hein, mettez ce que vous voulez, mais seulement à une personne de confiance, est-ce que Dieu le voit comme de la sagesse ou de la médisance ? Imaginons, je prends une, allez, c'est ma question, avec un frère ou une sœur ou quelqu'un, peu importe, vous mettez qui vous voulez, il y a quelque chose qui me dérange dans le caractère ou dans les paroles qu'il a pu dire ou dans sa réaction, peu importe, et j'ai besoin de me confier à quelqu'un. Ça vous arrive à tous, non ? Et je parle pas à n'importe qui, je sélectionne quelqu'un de confiance à qui je vais parler. Est-ce que c'est de la sagesse ou est-ce que c'est de la médisance ? C'est de la médisance dans la sagesse. c'est un des deux. Ça peut pas être. Ouais. Et la réponse, elle est là. En fait, tout va dépendre. C'est l'intention. Quelle est l'intention ? Si l'intention, ça va être, je prends la personne de, ça peut être la personne de confiance, peu importe. Hein. Personne de confiance, ça peut être aussi de la médisance. Si mon intention, c'est que je parle derrière. Et que j'expose tout ce que je ressens en parlant du mal derrière de la personne quelque part. Si par contre j'exprime quelque part, je sais pas, des doutes, des remarques, j'exprime quelque part mon ressenti, mais sans être dans l'intention mauvaise, en me disant si la personne elle est là, elle sera pas blessée par ce que je dis. Parce que c'est ça la vraie question. Si la personne elle est là, est-ce que si j'exprime ici mes interrogations, elle sera blessée ? Si elle est blessée ou quelque chose, là il y a un truc qui colle pas. C'est que du coup, dans mes paroles, il manque de bienveillance, il manque de quelque chose. Si dans l'intention, par contre, l'intention, elle a un questionnement, et peut-être que c'est moi qui me fais des idées, voilà, je dis n'importe quoi hein, sur quelqu'un, du coup, avoir un deuxième avis, ça peut être intéressant ou pas. Mais ce qui est intéressant ici de savoir, c'est de ne pas tomber dans ce piège de la médisance. Dieu écoute nos prières, comme ici, mais il écoute aussi nos paroles, et les deux montent vers lui. Et la question, quelque part, c'est qu'est-ce qui monte le plus souvent de ma bouche ? Est-ce que c'est des plaintes, des louanges ? Est-ce que c'est des critiques ou des bénédictions ? Et d'une même bouche, c'est pas moi qui le dis, hein, Nouveau Testament, ne peut pas sortir deux sources différentes. Soit c'est la mort qui sort, soit c'est des sources ici qui viennent du cœur de Dieu. C'est dur, hein ? Préparant ce message, il m'a beaucoup remué. Et je disais, Seigneur, fais-nous grâce. La question, du coup, quelque part, ce n'est pas seulement à qui je parle, mais pourquoi je parle. Est-ce que je parle pour me... Parce que des fois, il y a ça dans la médisance. Hein. Je suis chargé envers quelqu'un, j'ai le cœur lourd envers quelqu'un et j'ai envie de me décharger. Du coup, je trouve quelqu'un de confiance, peu importe, et je me décharge. Mais est-ce que c'est bien ? Pas forcément. Hein. Et nous avons, nous, chrétiens, un Dieu sur qui nous pouvons nous décharger. Nous pouvons, du coup, tout expliquer, tout parler. Alors, il ne s'agit pas du coup de pas non plus en parler à quelqu'un de confiance, mais je pense qu'il faut faire très attention. Parce que si cette personne de confiance, son regard, elle change sur la personne avec qui je parle, je suis dans la médisance. Je sème dans le cœur de quelqu'un, ici, quelque chose qui est néfaste. Et je tue, je détruis. Ecclésiaste, l'auteur dans Ecclésiaste, je vous ai mis le verset tout au début, hein. Je vois que vous êtes assez sage, il va dire ceci, il vaut mieux tuer. Que médire ? Parce que la médisance, on peut tuer plusieurs fois. Et on pourrait entraîner quelqu'un dans une sombre spirale. Parce que, premièrement, si elle découvre, c'est le choc. Choc de la trahison, choc de la confiance, et puis il y a ce qu'on dit. Je vous prends l'exemple, j'ai pris l'exemple, j'ai pas dit la fin, de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, il va être accusé de cela. Heureusement, ça va vite se régler parce que c'est factuel. Il a rien volé du tout. Mais il y avait ailleurs des dégâts collatéraux. Son épouse, elle va très mal vivre cette situation. Parce que c'est le regard qui a été porté. Il va y avoir ses enfants aussi qui vont mal terminer. Ses enfants à Charles Spurgeon, ils vont tous pas bien terminer. Alors certains si, Et notamment, cette histoire va leur faire du dégât. Ils vont dire, moi, j'ai vu des chrétiens qui parlent. Qui parlent d'amour de Dieu et dans leur même bouche, qui inventent des choses. Et c'est à nous, mes frères et sœurs, ici, d'être dans la vigilance, de ne pas laisser ce poison quelque part, qui est le poison du diable. Comme il l'a fait avec Adam et Ève. Adam, avec Adam et Ève, il leur dit des parts de vérité. Hein. Et pourtant, c'est cette médisance qui va entraîner leur chute. Se sanctifier, du coup, et je préfère le dire, du coup, ce n'est pas non plus se taire. En tant que chrétien, du coup, on ne doit pas se dire « Maintenant, je dois devenir muet et éviter de parler, parce que quand je parle, ça ne va pas. » Alors, si vous trouvez que vous avez du mal avec votre bouche, peut-être qu'il vaut mieux se taire. Et apprendre à se taire, c'est une bonne chose. Maintenant, ce n'est pas en vous taisant à tout jamais que ça va régler les choses. Ce que Dieu nous apprend, c'est ce que la Bible appelle mettre un mort à notre bouche, mettre un frein à notre bouche, tourner quelque part 7 fois sa langue avant de parler. C'est ça, ça peut mettre autant de fois que vous voulez. Nous avons, mes frères et sœurs, 2 oreilles et 1 bouche. 1 langue et 2 oreilles. On doit prendre beaucoup plus de temps à 2 fois plus écouter, 2 fois plus prendre le temps à écouter, à analyser que de parler. Et bien souvent, on parle, et on parle trop vite. Et la parole qui est laissée, on ne peut pas la reprendre derrière. On peut demander pardon, on peut faire tout ce que l'on veut, la parole, quand elle est dite, elle est dite. Et une parole qui est dite, elle peut être sous le coup de la colère, sous le coup de plein d'autres. Quand elle est dite, elle ne sort pas de nulle part. C'est que quelque part, au fond de moi, il y a quelque chose où il y a une part de vérité dans ce que j'ai dit. Et on peut après se cacher derrière la colère ou autre. Non, non, oui, ok, d'accord, mais ce que tu as dit, ce n'est pas une invention. Dans ce que tu as dit, il y a quelque chose ici que tu crois, que tu penses. À juste titre ou pas, hein, comme Myriam et Aaron. Éphésiens 4, verset 29, va dire ceci. « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles, qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. » Et puis on a l'exemple du Christ. J'aime bien parce que le Christ... Notre Seigneur Jésus, c'est l'exemple ici parfait. Et quand les gens vont murmurer contre Jésus, quand ils vont le calomnier, Dieu va prendre sa défense. Et le Père va dire ceci, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui que j'ai choisi avec joie. » Le Père a parlé pour défendre Jésus, pour défendre le Fils, et aujourd'hui encore, Christ défend ceux qu'on attaque injustement. À travers les mots, il est notre avocat auprès du Père. Mais Dieu n'en reste pas à la réprimande. Dans cette histoire avec Aaron, Dieu ne va pas juste réprimander Aaron et Myriam, il va aussi révéler ce que produit la médisance, la lèpre, la mort, une honte, mais aussi une occasion de grâce. Et c'est mon dernier point, quand la grâce restaure ceux qui reconnaissent leur faute. C'est les versets 10 à 15. Et je voudrais vous poser cette question. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez maintenant quelqu'un parler contre vous, derrière votre dos? Ça vous est déjà tous arrivé, non? Alors si ça ne vous est pas arrivé, je préfère vous le dire, dans votre vie. Alors peut-être si vous êtes très jeune, vous n'êtes pas passé par là, quelqu'un parle derrière vous, c'est obligé. À moins que vous soyez un ermite sur une île, aux Galapagos, ou dans une île perdue, mais dans les relations humaines, c'est inévitable qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un va parler mal de vous. Tristesse, colère, ouais. La blessure. C'est des ressentis qui sont justes, hein, tout cela. La méfiance. Oui, forcément, on va se dire, mais comment je peux du coup parler avec quelqu'un qui parle derrière mon dos, pas en face, juste derrière mon dos. Et du coup, face à ces émotions qui sont là, comment je peux réagir? Ou comment je réagis? Oui, alors ma question, c'est pas comment vous réagissez idéalement, hein. C'est comment vous réagissez au jour d'aujourd'hui. D'accord, alors moi, c'est pas tout ce que je constate. Alors si je pouvais constater que ça, mais je sais pas ce que je constate. Hein. C'est ce qu'il faut faire, effectivement, mais comment, naturellement, on a tendance à réagir quand on entend. Et quand on réagit, bah forcément, on est triste, on est déçu, comme disait Liliane, on se sent trahi. Comment, nous, êtres humains, nous avons tendance à réagir? Ah, vous êtes parfait. Vous êtes parfait en théorie, vous. En général, qu'est-ce qui se passe? on a envie de se venger. C'est le sentiment de vengeance qui arrive. Alors, si on est chrétien et qu'on a de la bouteille, on va laisser passer, certes. Mais je ne parle pas en tant que chrétien, je parle de manière humaine. De manière humaine, qu'est-ce qui va se passer? Vous prenez quelqu'un du monde qui sait qu'on médit sur lui, il ne va pas dire tout de suite « je vais aller parler à la personne ». Ou s'il va parler avec la personne, c'est avec une mauvaise intention. L'intention de régler ses comptes. C'est pas la même chose. C'est ça. Ça dépend du caractère, donc soit on va s'éloigner, soit on va foncer. Mais du coup, ici, la réaction n'est pas ici une réaction que Dieu attend. Et c'est intéressant que de voir dans ce passage, du coup, ici, la réaction de Moïse. Une réaction juste. Une très bonne réaction. On va voir que le nuage va se retirer, et le nuage va représenter ici la présence de Dieu. Et tout d'un coup, Myriam va devenir lépreuse. Dieu va la frapper de lèpre. Il ne discute pas. Dieu vient d'entendre, il a constaté que Myriam parlait, il la frappe de lèpre. Et la lèpre à l'époque, dans l'Ancien Testament, c'est le symbole ici d'une maladie, de péché grave. Elle a fauté gravement. Et parce qu'elle a fauté gravement, du coup Dieu la frappe de lèpre. Il ne parle même pas. Des fois on voit Dieu qui parle, là pas du tout. Dieu a entendu, il est son propre témoin. Et du coup ici il frappe Myriam de lèpre. C'est terrible pour elle, parce que du coup, cette lèpre, elle va se voir. Ce n'est pas une maladie ici cachée. Et c'est une maladie, du coup, en opposition avec son péché. Son péché qui était caché, ici, Dieu lui donne un autre péché, qui est bien visible. Pour que quelque part, on voit quelque part ici le poids de sa faute. Est-ce que vous savez c'est quoi la lèpre? C'est une maladie qui n'existe plus, donc c'est bon à savoir. Oui. Oui, vas-y, tu as levé ta main. Oui, c'est ça, comme la varicelle. Mais c'est même plus grave que la varicelle. En fait, c'est une maladie, si tu veux, c'est ça, qui pourrit les chairs. Et en fait, qui va même, des fois, dans les cas extrêmes, à ce que tes membres tombent. Tu peux perdre tes membres. Donc c'est une maladie très grave. En fait, c'est les nerfs qui sont atteints. Et parce que les nerfs sont atteints, on ne ressent plus la douleur, plus rien. Ça entraîne la mort sur le long terme. Et à l'époque d'Israël, époque de l'Antiquité, la lèpre était courante. Alors maintenant, c'est moins le cas, heureusement. Mais il y a pas non plus si longtemps que ça, des cas de lèpre, même dans nos pays. Il y a même des centres, c'est près de léproserie, je crois, centres de lèpre pour traiter la lèpre. Et c'est des personnes qu'on isolait, parce que la maladie était contagieuse. Du coup, c'est pas une maladie qui est anodine. Et tu vois, comme tu disais, ce serait la varicelle, je pense qu'elle aurait été contente, Myriam. Mais là, il y a une maladie qui est mortelle, qui peut l'entraîner dans la mort. Aaron, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder sa sœur, il va être pris de panique, il va dire ceci à Moïse au verset 11, « De grâce, ne nous fais pas supporter les conséquences du péché que nous avons eu la folie de commettre et dont nous nous sommes rendus coupables. » Aaron reconnaît sa faute. Il reconnaît qu'il a été fou de mal parler envers son frère et que même s'il a dit la vérité, il aurait dû en parler directement à Moïse. Dire, Moïse, t'as pris une femme éthiopienne, bon, ça me dérange pour x, y raison, peu importe, qu'ils aient une discussion de frères, une discussion entre frères et sœurs. Et c'est intéressant ce que tu vois, nous on pourrait se dire c'est une situation de famille. Quelque part c'est anodin. Mais de voir que dans cette situation, Dieu va réagir de manière ferme. Aaron va demander du coup ici à Moïse que Dieu prie pour qu'il puisse guérir ici. Myriam, et que va faire Moïse? Est-ce que Moïse va dire « Ha ha ha, maintenant c'est votre tour. Dieu est de mon côté. » Et est-ce qu'il jubile de la souffrance ici de son frère ou de sa sœur? Moïse va intercéder pour. Et c'est intéressant de voir du coup cette réaction. Moïse, je pense qu'il a été, alors le texte ne le dit pas, mais c'est sûr qu'il a été blessé. Par quelqu'un de proche. Et plus quelqu'un de ses proches qui nous trahit, plus ça fait mal. Et c'est intéressant de voir Moïse qui ne va pas jubiler. Moïse ne va pas dire « Ah, bien fait, il ne fallait pas parler mal de moi. » Il va intercéder immédiatement et au verset 13, « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Je trouve que c'est magnifique cette phrase. Et c'est peut-être la plus belle réponse à la médisance, c'est ce que Dieu nous encourage à faire. Celui qu'on a critiqué, Moïse, devient celui qui prie pour la guérison du critique. Celui qui a été victime du poison de la médisance, du mal qui a été prononcé contre lui, va prier pour que celui qui a médit, quelque part, puisse trouver le salut. Et c'est le cœur ici du Christ. Le Seigneur Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il va dire ? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mes frères et sœurs, dans la médisance, on vient de le dire, hein, c'est bien, Liliane, elle a bien exprimé, elle a exprimé ce que nous tous, on peut ressentir quand on entend quelqu'un qui parle mal de nous, de la tristesse, de la trahison, de la méfiance, les sentiments qui doivent réagir de nous, après. Ce n'est pas de la réaction, ce n'est pas aller voir pour régler ses comptes, c'est de prier. Et prier, ça permet pour nous, qui sommes tous victimes, parce que du coup, même si on médite tous, on est tous aussi victimes de médisance, de pouvoir se taire. De pouvoir vous rappeler peut-être, je remettrai peut-être ce verset d'Ecclésiaste. Quand tu entends que quelqu'un parle mal de toi, rappelle-toi que toi aussi tu fais pareil. On met un peu de temporiser et de dire Seigneur, agis dans mon cœur. Que ce péché quelque part que je reçois, je ne le rende pas, mais que je puisse bénir. Moïse ne va pas prier juste pour sa sœur, il a prié pour la guérison de sa sœur. Il aurait pu se dire, ah ben non, c'est Dieu qui a puni, hein. C'est pas une maladie qui vient au hasard, c'est Dieu qui te punit, maintenant tu assumes. Non, il va prier, il va intercéder même, pour que sa sœur, du coup, puisse trouver le salut. On pourrait se dire, et ça pourrait peut-être mettre votre réaction ce matin, Seigneur, est-ce que c'est vraiment à moi de prier pour celui qui me critique ? Et à cette question, je veux qu'on soit franc, mes frères et sœurs, c'est dur. On peut pas dire que c'est simple. Mais pourtant, c'est ce que Dieu nous commande. C'est même pas une option, c'est ce qu'il nous commande. De prier pour ceux qui médisent contre nous. C'est la réaction de celui qui est rempli de l'esprit. Quelque part, dans sa réaction, il ne réagit pas comme les autres hommes, comme les autres femmes. Il réagit comme le Seigneur Jésus agit. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et moi, je ne suis pas mieux que eux, puisque moi aussi, quelquefois, j'ai tendance à mentir, comme dit l'Ecclésiaste. Mais je veux prier pour que cette médisance, du coup, s'arrête et que cette personne puisse trouver, quelque part, la sagesse de se rendre compte que ce qu'elle fait, c'est mal. Est-ce que ça nous arrive, et là je vous pose la question concrètement, pas en théorie, hein, de prier pour ceux qui parlent mal de vous? Vous vous dites, là, j'ai entendu quelqu'un prier mal de vous, de moi, là, je vais prier pour lui. C'est dur, c'est dur. C'est dur, mais c'est ce que Dieu nous commande à faire. Et cette réaction, ce n'est pas juste pour le faire, c'est l'amour qui doit primer. Un amour concret, un amour qui vient de Dieu. Si nous n'arrivons pas, mes frères et sœurs, c'est se placer devant Dieu. Dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi parce que je sais que là, le péché, il est là. Je ne suis pas mieux, mais j'ai besoin que tu guérisses déjà mon cœur pour que je puisse prier et aimer cette personne. Est-ce que quelque part je réagis comme le Christ ? On a cette illustration, c'est avec Joseph. Joseph, dans l'Ancien Testament, l'histoire de Joseph, voilà, il avait des frères qui avaient menti envers lui, qui avaient trahi son nom. Et bien, quand il va revoir ses frères qui ont brisé sa vie, hein, ils vont le vendre en esclave en Égypte. Alors, il va bien terminer par la grâce de Dieu, mais quand il va revoir ses frères, lors de cette période de famine, il va dire ceci. Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et Joseph voit ici la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'il va communiquer à ses frères. Il ne va pas se régler les comptes. Il va communiquer la grâce que Dieu lui a faite. Il va leur communiquer. Il va même leur donner ici libre accès. Du coup, au grenier d'Égypte, il va les inviter même à s'installer en Égypte. Il aurait pu faire autrement. Mais ici, c'est la grâce de Dieu qui réagit. Face à la médisance, si nous nous médisons encore, finalement, nous ne faisons que continuer le même péché. Et pour stopper la médisance, il ne s'agit pas de dire stop. Non, il s'agit de prier. Et la prière, ça nous permet de nous poser devant le Seigneur, d'exposer tous nos ressentiments pour pouvoir ensuite bénir. Transformer la blessure en bénédiction. C'est ce que nous sommes appelés à vivre. La sanctification, c'est cela. Transformer des choses qui ont été brisées, blessées, des blessures profondes, en quelque chose d'autre. Quelque chose que Dieu seul est capable de faire. Pour Myriam, Dieu a permis que sa guérison va passer par une humiliation. Le peuple tout entier va savoir que la sœur de celui qui guide le peuple, quelque part, a péché. Mais Dieu ne veut pas faire cela pour la détruire, mais pour purifier son cœur et enseigner tout le peuple. fait, Dieu va utiliser cette occasion pour enseigner au peuple que, quelque part ici, le péché de la langue est grave. Et le peuple va être dans la crainte. La crainte que, quelque part, même dans le secret, Dieu est là. Et qu'il nous appelle, quelque part, à la transformation. Mais c'est beau aussi de voir que nous avons un Dieu ici qui ne punit pas de manière inconsidérée. Il va relever. Il va relever Myriam, il va relever tout le peuple. Et il va restaurer ici, finalement, tout le monde. Dieu n'agit heureusement pas toujours ainsi, pas toujours dans l'exposition publique, bien que, souvent, dans les péchés de la langue, que ce soit le mensonge ou la médisance, des fois, c'est la vérité qui est un des seuls vaccins. La vérité permet de mettre autre chose. Quelque chose de plus sûr, quelque chose de plus certain. Mais quelquefois, c'est notre conscience qui peut nous travailler, qui peut nous brûler, quand on parle trop. Dieu ne rejette pas le médisant, sinon il nous rejetterait tous, mais il aime le médisant, il aime surtout le médisant qui reconnaît sa faute. Dans ce passage-là, Aaron, qui va parler pour sa sœur, reconnaît sa faute. De manière claire, il va dire « Pardonne notre folie d'avoir mal parlé contre toi. » C'est pas parler faussement, mal parler contre toi. Et il va restaurer la prière du juste, qui est Moïse. Dans la sanctification, Dieu ne cherche pas des gens parfaits, mais des cœurs repentants. C'est l'identité du chrétien, la repentance. Et ici, le Christ préfigure tout cela, celui qu'on critique, celui qu'on rejette, mais aussi celui qui prie pour ceux qui l'ont offensé. Et comme Myriam, nous avons tous été ici des lépreux, entre guillemets. À cause de nos paroles, de nos péchés, mais Jésus a porté notre lèpre sur la croix, nos péchés de bouche sur cette croix pour que nous soyons purifiés. C'est Ésaïe 1 qui va dire ceci, il a été blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pour conclure, c'est l'histoire vraie qui a été rapportée au XVIIIe siècle en France par un pasteur de campagne qui, un jour, va dans son petite église de campagne, une femme va venir le trouver en pleurant. Cette femme va lui dire... Pasteur, je crois que j'ai fait du mal à quelqu'un en parlant mal de cette personne. J'ai médit contre elle. Ce que j'ai dit, c'est pas faux, mais je sens ma conscience qui me travaille. Ce que je fais, c'est pas bien. Elle va le confesser, du coup, ici, à ce pasteur, qui va lui conseiller, du coup, et elle va dire, du coup, ceci, voilà, je regrette. Que faire? Et le pasteur va lui dire ceci. Excusez-moi. Va chez toi, tu prends un oreiller plein de plumes, tu montes sur la colline et tu vas le déchirer au vent. Vous allez me dire, c'est quoi cette parole? Quel est le rapport? Mais cette femme, elle va obéir. Elle va aller sur cette colline, elle va prendre un oreiller qu'elle a rempli de plumes, elle va le déchirer au vent. Et les plumes vont s'envoler dans toutes les directions. Le lendemain, elle revient voir le pasteur, elle va lui dire, maintenant, qu'est-ce que je fais? Le pasteur va lui dire, maintenant tu vas aller retourner au lieu où tu lui as déchiré cet oreiller et tu vas aller ramasser toutes les plumes. Il va dire, mais c'est impossible. C'est parti partout. Et le pasteur va répondre calmement et du coup doucement et sincèrement. Du coup, c'est bien ma sœur, tu demandes pardon. Mais c'est ainsi aussi que tes paroles que tu prononces, une fois sorties de ta bouche, tu ne peux plus les reprendre. Dieu peut pardonner ton cœur. Il peut te donner un cœur nouveau, mais les paroles que tu as prononcées, elles restent. Tu ne pourras jamais les reprendre. À nous, mes frères et sœurs, Dieu entend du coup ce que nous disons. Il déteste ici la médisance, il aime le médisant repentant, mais il nous appelle, en tout cas à réagir et à parler comme le Christ. Non plus à détruire par nos paroles, mais à édifier, non plus à juger, mais à intercéder. Je vous remets ce verset. Nous allons prier. Éphésiens 4, verset 29. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Je propose de prier. Oui. Ouais, vas-y. Alors, est-ce que vous avez entendu la question de Lydiane? Donc, Matthieu 18, il est question, en fait, c'est Jésus qui va parler. En fait, il parle ici de discipline, hein, c'est la discipline hein, qui parle. Que si quelqu'un a parlé mal de nous, d'aller voir la personne et d'aller régler les choses. Dire les choses dans la vérité, ça va ensemble. Mais en fait, avant de faire cette démarche-là, pour pas que cette démarche elle soit dans le règlement de compte, c'est prier. Prier quelque part pour qu'on puisse bénir l'autre. Et puis, moi, je vous encourage, mes frères et sœurs, de toute façon, moi, c'est comme ça que je fais. Et je considère que c'est un principe biblique. La médisance, on peut pas la freiner. On peut régler les choses avec la personne sur qui on entend ou on peut entendre qu'elle parle. Mais d'ailleurs, est-ce que ce qu'elle entend, c'est vraiment ce qui se passe ou pas? Ça, tu sais même pas en plus. Hein. Et ce qu'il faut, c'est ne pas tomber dans le piège de la médisance. Ne pas surréagir et entretenir ici un mauvais feu. Ce que faire, c'est prier. Après, on peut aussi aller voir la personne et essayer de régler les choses. Mais tout va dépendre des situations. Je pense que c'est pas systématique, ça va dépendre aussi des circonstances, comment les choses se passent. Ce qu'il faut dans tous les cas, c'est un cœur disposé et qui prie. Moi, je suis convaincu que celui qui prie, et qui prie. Et celui qui prie, du coup, moi, je suis convaincu que Dieu lui montrera, il lui montrera comment faire. Maintenant, il y a une chose qui est vraie, hein. La vérité, c'est un des remèdes. Un des remèdes principaux. Sur le texte que tu prends, c'est un texte de discipline. Alors là, c'est la médisance dans le cadre de l'église. Dans le cadre de l'église, bon, moi, c'est comme ça que je fais, et c'est tous les pasteurs qui font comme ça. C'est dire la vérité. En fait, on reprend ce texte de Jésus, tu vas voir ton prochain, pas que sur le péché de la médisance, hein, sur le péché en général, tu parles, et s'il n'écoute pas, tu prends un témoin, et s'il n'entend pas, tu prends l'église à témoin. Bon, en général, on va pas jusque-là, mais ça arrive. Hein. Mais ça, c'est dans le cadre de la sanctification, mais c'est un autre sujet qu'on abordera une autre fois. On prie. Merci Père encore, mon Dieu, pour ta parole ce matin, qui est riche. Et qui nous concerne tous. Merci mon Dieu parce que tu nous parles encore, Jésus, et je te prie de venir nous aider. Je veux voir mon Dieu combien la médisance elle est terrible. Et mon Dieu, je veux vraiment nous remettre dans ta main ce matin. Car c'est vrai mon Dieu, nous sommes tous concernés par ce péché qui est là. Cette facilité mon Dieu à parler derrière le dos des personnes qui nous entourent, derrière notre prochain. Chose Seigneur que tu n'as pas faite. Seigneur, est-ce bien encore nous remplir de toi, Saint-Esprit, que toi tu puisses réagir comme toi tu agis, mon Dieu. Que nous puissions, mon Dieu, avoir cette attitude saine, où nous puissions mettre encore un frein à notre langue, pour que nous puissions, mon Dieu, réagir comme toi tu fais. Viens nous aider, mon Dieu, tu peux voir cette langue qui est un petit organe, mais qui nous cause des fois tant de soucis, tant de problèmes. Donne-nous de la maturité, de la sagesse, apprends-nous. Si besoin à nous taire, pour que nous puissions, mon Dieu, plus écouter, entendre plutôt que de parler. Parler trop vite, comme tu dis, mon Dieu, à ta parole, ou chaque parole qui est dite, on ne peut pas la reprendre. Même si toi tu nous pardonnes, Jésus, même si toi tu nous sanctifies, tu nous gracies, cette parole qui a été semée, elle a été semée, viens nous aider encore. À ne pas, mon Dieu, du coup, semer n'importe comment. Amen.